l'émission Zeppo qui tend le micro aux artistes locaux.
Artiste Corner.
Et salut à tous, on est sur Radio Balade et c'est un nouvel épisode d'Artiste Corner. Aujourd'hui on se retrouve avec Julien qui a fait les Beaux-Arts. Donc salut Julien, comment ça va?
Ouais, ça va super bien, et toi?
Ça va. Alors dès l'enfance, ton jeu préféré était la pâte à modeler pour te permettre de modeler des monstres et de raconter des histoires.
Ouais, tout à fait, ouais.
Donc en primaire, tu te passionnes pour les cactus et les plantes grasses. Ensuite au lycée, tu découvres la cuisson de l'argile en parallèle de tes dessins et tu te projettes dans des œuvres en trois dimensions. À cette période, tu as entre 17 et 18 ans. À cette même période, tu découvres la sculpture et le moulage par estampage.
Oui, l'estampage.
C'est ça. Et tu réalises tes premiers beaux-arts. Alors, salut Julien, je t'ai déjà dit. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire? Comment tu en es arrivé à la création des beaux-arts?
Un peu comme tu l'as dit, au début, j'étais essentiellement sur le dessin à l'école et j'ai fait le petit atelier à Limoux qui était très sympa. Et j'étais beaucoup dans le dessin du cercle pour faire les gabarits des personnages, etc. Donc beaucoup de cercles, des yeux. Et quand j'ai passé mon BAFA au centre équestre de Ninotre, le directeur a commencé à nous amener de l'argile pour que j'occupe les enfants. Et j'ai commencé à travailler l'argile et à transformer ce cercle en deux dimensions, en sphère sur la troisième dimension.
Carrément, ouais, ok.
Donc voilà, c'était autour de mes 18 ans les premiers beaux-arts.
Ok, ça marche. Donc ensuite, t'as fait plusieurs choses. T'as fait une fac de psycho, t'as aussi fait du kayak, mais entraîneur de kayak. Mais t'étais pas, on va dire, un simple entraîneur, t'entraînais quand même des jeunes espoirs, si je dis pas de conneries, c'est ça?
C'était au club de Montpellier, on a monté le club d'une manière assez solide avec un collègue et une grande partie de mon travail à l'époque c'était d'entraîner des jeunes dans la compétition en course en ligne que j'ai moi-même pratiqué pendant des années et on est monté jusqu'au championnat de France où ils ont ramené des top 10, on n'a jamais vraiment eu de médaille mais toujours de belles expériences humaines et c'est le premier but
de l'expérience. Tu m'étonnes, c'est clair. Ah, donc t'étais déjà un peu... un mec motivé, un peu acharné, qui avait envie d'aller un peu loin, quoi.
Tout à fait, Ren.
Et donc, juste après ça, tu retournes chez tes parents, et c'est à ce moment-là que tu te mets vraiment à fond dans les beaux-arts.
Ouais, tout à fait. En fait, c'est marrant, parce que l'histoire commence un peu à espère hasard. C'est la mère d'une amie qui me cuisait mes premières œuvres quand j'étais au lycée. Et quand j'avais 18 ans, elle m'avait proposé de me vendre son four, donc je l'avais acheté. Et donc, elle habitait elle-même à espère hasard. J'avais ramené ce four que j'avais stocké dans le garage et quand j'ai arrêté le kayak, que j'avais plus vraiment d'activité, j'ai retrouvé ce four qui prenait la poussière depuis des années. Et j'ai dit, tiens, j'avais une bonne idée à l'époque, si on essayait d'en faire quelque chose pour de vrai ce coup-ci.
Ah bah ouais.
Et voilà. Et donc j'ai recréé des moules, les premières cuissons, les premiers tests. C'était il y a presque 3 ans déjà.
Ah ouais, déjà quand même.
Ouais.
Ouais, donc ça va, tu avances bien quand même, quoi, c'est cool. Et bon, alors je voulais savoir, est-ce que tu peux nous décrire une journée type de ton quotidien, est-ce qu'il y en a, parce que si elles sont toutes, pas du tout toutes pareilles, tu nous expliques.
Ouf, la journée type, il y en a pas vraiment parce que j'ai énormément d'idées, je suis en train de créer énormément de projets et de choses différentes, donc tous les jours sont un peu différents.
Il y a du son.
Oula.
Quoi?
C'est ton tapis.
Et on m'entend toujours là?
Ouais, c'est bon, pardon, on a des petits problèmes. Hein.
Les aléas. Et la journée type, elle est toujours différente. La grosse journée de travail classique, ça va être de lancer les agitateurs de terre pour débuler mes grosses soupes et de sortir tous les moules dehors, de couler de l'argile dedans, d'attendre un certain temps, de vider les moules. Après, il faut réattendre, sortir les pièces et après faire la finition.
Ouais.
Voilà, après c'est des phases de travail qui sont toujours étalées dans le temps très long parce que la terre elle doit sécher, il y a un temps de la terre.
C'est ce que j'ai compris, ouais.
Voilà.
Ce que j'ai cru comprendre.
Et du coup, il y a par exemple là, ça fait 2 jours que je fais que de l'émaillage.
L'émaillage, si tu peux nous expliquer, parce que alors, personnellement déjà je sais pas trop ce que c'est.
Alors l'émail, c'est l'espèce de verre qu'on met par-dessus les matériaux céramiques qui donne les couleurs, les effets.
Ce côté brillant.
Voilà.
Tout ok, à fait. D'accord. Et justement, tu parlais de beaucoup de temps. Et justement, moi, j'ai regardé un peu. Tu mets presque, on va dire presque environ 2 semaines, presque 3, à faire un nouveau modèle. Parce que vu que l'impression 3D, après tu passes du moule en PLA au moule en plâtre, et ensuite il faut que ça sèche, machin, machin. Donc ouais. Donc quand tu veux faire un nouveau modèle, ça se passe comment?
C'est
tu
même
prévois
plus
vite
que ça.
C'est encore plus.
Ah ouais, c'est entre c'est un bon mois et demi avant de sortir les premières pièces définitives.
Ouais, voilà, carrément.
Parce que comme tu l'as dit, moi je travaille avec les imprimantes 3D parce que mes formes sont extrêmement compliquées. En fait, les assemblages de sphères avec les techniques traditionnelles, je mettais 4-5 heures à sortir un pot, donc c'était pas possible. Donc je me suis orienté sur les moules. Et l'impression 3D a vachement facilité le travail, donc ça me permet de créer toutes les formes sur ordinateur. D'avoir les lignes de dépouille, donc ça c'est un peu technique, c'est pour savoir quelle partie du moule, où est-ce que le moule doit s'ouvrir, comment l'assembler. Donc là je crée mon modèle sur ordinateur, où là il faut bien le réfléchir parce que l'impression 3D c'est très long.
Mais tout ça t'as dû l'apprendre sur le tas ou...
Ah, je suis autodidacte à
100%. Ouais, c'est ça, hein. Parce que t'as un logiciel quand même qui fait tout ça t'as
ouais,
dû l'apprendre.
Bah, c'est des heures de galère.
me doute bien, ouais.
Merci au monde de l'open source qui me permet d'avancer comme ça à mon rythme, quoi. Et donc voilà, donc ça, modélisation, après j'imprime la pièce en PLA, donc là ça prend à peu près entre 20 et 40 heures suivant la taille du pot, plus les autres parties, donc on est sur un modèle définitif de pot, je suis à 80 heures d'impression.
Ah ouais.
Une fois que j'ai ça, j'ai mes négatifs de moule que je viens mettre dans un coffrage que j'ai fabriqué moi-même, je coule mon plâtre, donc là c'est une heure par partie de moule à peu près.
Ah ouais, carrément quoi.
Et une fois que j'ai mon moule définitif, il faut attendre encore que l'eau s'évacue du moule en séchage naturel. Donc là, il y a 2 semaines supplémentaires pour que
les
moule
fameuses,
sèche.
Les fameuses, ouais, c'est ça.
Voilà. Et à partir de là, je peux venir travailler sur mon moule et couler mes premières pièces.
Ok,
et
ça marche.
De la première pièce à l'objet définitif, il y a une journée de coulage, une journée d'émaillage, et après, il y a une cuisson qui peut durer entre 20 et 40 heures suivant la température à laquelle je cuis.
Ok, ça marche.
Donc c'est un processus très très long.
Ouais, bah c'est ça, c'est ce que j'ai pu comprendre. Et bah justement, tu parles de beaucoup de choses que t'as fait toi personnellement. Enfin, on va dire, vu que t'es, on va dire, indépendant et petit, il y a beaucoup de choses que t'as dû fabriquer toi-même et je trouve ça vachement intéressant. Et j'ai l'impression que t'as une genre de connexion avec ton travail ou un truc comme ça. Enfin, en tout cas, c'est vachement de l'impression que ça donne quand on est sur ton site et ce que tu nous racontes en tout cas, quoi.
Ouais, c'est une passion de ce que je fais, une exigence que j'ai de sortir des belles choses et de faire tout moi-même. Et c'est super cool parce qu'en fait, je touche à plein de domaines et j'apprends plein de choses et on galère. Mais après, quand j'ai besoin d'ajuster quelque chose ou quoi, si j'ai une machine qui déconne un peu, bah, je peux la réparer moi-même, je peux l'arranger. Donc c'est du temps, mais c'est une grande force dans mon atelier maintenant, une fois que les choses sont en place.
Ah bah ouais, tu m'étonnes. C'est clair, au fur et à mesure, dès que tu as un petit problème, tu sais qu'est-ce que c'est, vu que tu les as tous eu les problèmes, vu que c'est la galère, quoi, voilà, quoi.
J'ai tout l'historique des problèmes, du début à la fin, ouais.
Ok, et donc c'est vraiment, c'est les beaux-arts, c'est vraiment comme un art, quoi, c'est vraiment, c'est même dans le titre, de toute façon. Donc,
c'est les peaux artistiques.
Voilà, c'est ça, quoi.
Les peaux bizarres, les peaux, on m'a même dit Mozart des plantes.
Carrément. Oui, parce que, ça aussi, on va en parler, Tu fais pas que de la céramique et de la poterie. Enfin, moi, je dirais ça. C'est comment qu'on dit ? C'est céramique et potier ?
Alors, le céramiste, c'est quelqu'un qui va travailler la poterie, les émaux, etc. En fait, c'est le terme très général, le céramiste.
Ok, d'accord.
Et le potier, c'est celui qui fait que des pots, qui va être spécialisé tourneur.
Ok, d'accord.
Voilà.
C'est plus à. C'est moins avec des moules et plus avec les mains, avec tout qui
tourne.
Pas
forcément, non.
Même pas.
La céramique est une discipline, tandis que potier est un métier, en fait.
Ok.
C'est des boîtes. La céramique, c'est la grande boîte et la poterie, c'est une partie de la céramique.
Ok, d'accord. Et du coup, bah, je voulais savoir. Bah, mince, je me suis perdu, mais. Bon, bah, c'est pas grave. Bah, je voulais savoir, par rapport à ça, comment t'as fait pour développer toutes les techniques au fur et à mesure vu que tu regardais vachement sur internet ou tu faisais par toi-même, tu t'es dit, oh, peut-être que cette technique elle pourrait être bien parce que t'as développé plusieurs techniques. T'as fait par estampage, après. Par coulage, après impression 3D, et tout ça, ça t'est venu tout seul ou comment?
Bah, c'est être confronté au problème et puis chercher les solutions. Okay. Et
c'est la galère, comme on disait tout à l'heure.
Et finir par trouver la bonne, quoi. Okay. C'est le chemin qui est intéressant, quoi.
Ça marche. Ben, je voulais savoir aussi, on dirait qu'il y a vachement une démarche écologique derrière ce que tu fais par rapport justement. Ah, c'est ça, je me suis retrouvé, c'est par rapport aux plantes. Parce que tu fais pas que céramiste ou. Voilà, tu t'es aussi un peu. Jardinier, on va dire, vu que tu dois faire pousser tes plantes et tout. Et du coup, j'ai l'impression qu'il y a vachement une démarche un peu écologique, environnemental dans ce que tu fais, je trouve.
Alors j'essaie d'en avoir au maximum, c'est compliqué quand on a un four qui fait 7 kW de dire qu'on est vraiment écologique, ou alors c'est se voiler la face sur certaines,
bien sûr.
Certaines parties, mais j'essaie d'utiliser un maximum de matériaux neutres, toute la culture de mes plantes, parce que les posards c'est avant tout un pot de fleurs.
Oh bah oui.
Avec mes plantes grasses que j'essaie de cultiver moi-même à 100%. Donc là, cette année, je vais être autour des 80% de production
C'est pas mal quand
dans
même.
Ma serre. Donc voilà, donc, sans engrais, sans pesticides, j'utilise des décoctions d'ail, des traitements au charbon. Enfin, j'ai pas envie d'avoir une activité qui vient empirer la chose.
Oh bah ouais, bien sûr. Et c'est vachement ce que j'ai cru comprendre, de toute façon, ouais, c'est ça.
Bah, la plupart des céramistes sont quand même dans un contact à la terre au sens large.
Voilà, c'est ça.
Bon, y en a qui en ont un peu rien à faire et qui vont avoir des pratiques un peu limite, mais c'est quand même dans le mouvement de la céramique quelque chose de très vaste. Et puis moi, c'est mon éducation, c'est mon aspiration à la vie et j'ai envie de laisser des belles choses sur Terre.
Ah bah ouais, tu m'étonnes, c'est clair. Bah, ça fait plaisir. Et ben voilà, et ben est-ce que t'as prévu des nouvelles choses pour cette année? Ou des nouvelles choses dans tes moules, ou des nouvelles choses que tu pourrais nous dire ou...
Il y a plein de choses qui arrivent là, parce qu'avec les confinements et tout, j'ai eu énormément de temps pour travailler sur les nouveaux projets. Donc l'an dernier, j'avais abouti les posards, que j'ai déjà pu présenter sur tous les marchés de la région.
Ok, ouais.
Et depuis octobre dernier, il y a l'association Helios, qui est à côté d'ici, à Montazel, qui m'a commandé des Zoya. Donc les Zoya, c'est des grosses jarres en terre qu'on vient enterrer au pied des arbres et qui sont poreuses, donc on les remplit d'eau et okay. Ça vient diffuser lentement l'humidité. C'est très utilisé dans les jardins, en permaculture. C'est des techniques qui datent de la Grèce antique pour juste apporter l'eau dont la plante a besoin en continu.
Ah ouais,
donc là, il y a ça que je suis en train de travailler. Alors j'ai pas mal de problèmes techniques, chimiques, de plein de choses un peu pas prévues. Mais c'est en train de venir, donc ça c'est un premier truc qui devrait aboutir dans le courant de l'année.
Ok, et si je peux te poser 2-3 questions là-dessus, comment tu fais pour faire ces Zoya, c'est comme ça qu'on dit hein.
Ouais.
Tu fais des moules, tu les fais à la main, comment ça se passe?
Alors là c'est des très très gros moules qui font une quarantaine de kilos, c'est parce que c'est des gros volumes là, c'est la commande elle est pour des contenants d'une dizaine de litres. Donc c'est,
ok, ouais, quand même.
C'est toujours le même procédé en passant par l'impression 3D. Et la terre là, c'est une terre, c'est la terre de la Tuilerie de Limoux. Ça c'est intéressant aussi parce que j'avais besoin d'une terre un peu sableuse et la terre locale s'y prête très très bien.
Ouais, donc, c'est vrai. Ouais.
Donc ça serait cool.
Et ouais. Et oh, mince, enfin, j'ai des trous aujourd'hui. C'est les aléas, ils m'ont perturbé là. C'est et voilà. Et ben du coup, tu nous dis encore pour la suite, t'as encore d'autres choses. Tu nous as dit ça, c'est une des choses. Donc
voilà,
il y en a encore.
Ça,
quoi.
C'est une des choses. En fait, l'achat, cette commande-là a abouti à l'achat d'un four plus grand. Et c'est un
four. Ah
oui,
ça y est.
C'est un four qui, ouais, ça, je l'ai pas fabriqué moi-même.
On peut pas tout faire. Hein.
C'est possible, mais là, j'avais pas trop le temps dans tout ce que j'avais à faire. Et ce four cuit à haute température. Alors, haute température, c'est au-delà de 1050 degrés. La faïence, ça se cuit à 1050. Et okay. La haute température, ça concerne le grès, la porcelaine, des matériaux un peu plus solides, un peu plus qui me permettent d'avoir accès à toute la vaisselle en fait. Donc là, je suis en train de développer ça. Donc il y a des tasses, il y a des bols.
Ah ça y est, donc ça va plus être que les posards, ça va être toute la galerie quoi.
Bah, je m'amuse bien, c'est marrant la haute température. Là, je travaille sur de la porcelaine, on peut faire des émaux à partir de cendres. Je garde les cendres du poêle de tout l'hiver là, ça fait des blancs, ça fait des. C'est assez marrant au niveau chimique, il y a plein de techniques.
Donc t'es aussi un peu chimiste quoi.
De plus en plus, ouais.
ça c'est cool hein, ce métier, il y a beaucoup de choses. Assez intéressante quoi.
Ah ouais, c'est clair qu'il y a de quoi faire. Hein. Ça...
Ouais, c'est ça quoi. Et tu me parlais de. Oh non, mais aujourd'hui c'est pas possible, hein. Je suis désolé. Hein. Je suis vraiment désolé pour tout le monde, mais aujourd'hui là, c'est parce qu'il est midi, d'habitude j'ai pas l'habitude. D'habitude c'est pas cette heure-là. Ben, et du coup, t'as encore des choses à nous dire là, non?
Ouais, bah il y a aussi là, le tout dernier petit projet là, c'est des boucles d'oreilles. Donc sur
c'est vraiment tout il va faire vraiment beaucoup de choses maintenant quoi.
Oui, il faut que j'arrête un peu là. Il y a commencé à avoir trop de choses à gérer en même temps.
Ah, parce qu'après tu vas devoir faire beaucoup d'une chose, après si on t'as de la demande, tu vas devoir faire beaucoup, quoi.
Ouais, après t'as le temps, mais... après, comme je suis organisé, comme je peux pas travailler sur les marchés, en fait, j'ai vraiment des phases de production et puis des phases où je vais vendre. Donc après, une fois que je saurai ce que j'ai besoin de faire, c'est juste une question d'organisation. Et puis, puis s'il y en a plus, il y en a plus. Hein.
Et du coup, pour les boucles d'oreilles ?
Alors, c'est des petits dodécèdres, donc c'est un solide de Platon.
Oula, alors ça, qu'est-ce que c'est ça ?
Les solides de Platon, c'est des formes dites parfaites, avec c'est tout le temps la même face, et les faces sont des faces régulières. Donc on a le triangle avec les trois côtés pareils, on a le carré qui donne le cube, on a le... Et là, moi, celui que je travaille, c'est celui avec le pentagone. Donc ça donne une pièce à 12 faces, avec 12 pentagones sur chacune des faces. Donc okay. Ça fait une sorte de sphère un peu pentagonale. Là, j'ai un petit modèle dans la main.
Ok, enfin, ouais. Bon, ça, c'est un peu comme les dés. Ouais, c'est ça. Bah...
C'est un dé 12 faces,
ouais,
en fait.
C'est
voilà.
Ça, ok.
Et ça, c'est de la porcelaine que je viens émailler en haute température. Donc ça fait des effets très très sympas. Ah, c'est extrêmement solide. Et là, je viens rajouter des pièces en argent, argent sterling, le 925, qui est l'argent des boucles d'oreilles.
Ouais, c'est ça.
Voilà.
Ok.
Donc ça, c'est le petit projet qui
sera là. C'est un petit modèle un peu plus...
Voilà. Et puis moi, ça me permet aussi, là, avec le Covid et tout, je t'avoue que les pots à expédier avec les plantes et tout, c'est une bazar pas possible.
Ah ouais, tu m'étonnes.
Là, ça va me faire un petit produit que je vais pouvoir expédier facilement.
Et puis en même temps, c'est cool, tu te testes à différents univers, quoi.
Ouais, tout à fait, ouais.
Ouais, c'est ça. Ouais, bon, ça fait plaisir. Et y a un truc ou deux que je voulais savoir, c'est... Est-ce que tu as eu des problèmes avec la machine 3D ? Parce que je me suis demandé, comme je t'ai dit tout à l'heure, et là, tout à l'heure, tu parlais des moules, des... Bon, je me rappelle plus comment ça s'appelle, les Yona, ou c'est... Les gros moules de car.
Les Zoya.
Mais là, pareil, ça doit être combien d'heures ? C'est beaucoup d'heures, ça,
ouais, là, c'est sur les Zoya, ouais, on est sur des... J'ai plus les chiffres en tête, mais c'était une centaine d'heures pour avoir juste la pièce maîtresse.
Ok, ouais, d'accord. Parce que justement, c'est un truc vachement, moi, qui me... Pas qui me perturbe la machine 3D, mais on va dire, vu que quand tu penses à... au Posar ou à quelque chose comme ça, tu dis pas le mec il utilise une machine 3D machin, tu vois, je me suis dit, mais comment tu fais par exemple pour passer d'un moule à l'autre? Il y a tout plein de procédés que moi j'ai pas tout à fait compris, si tu peux m'expliquer un peu.
C'est
peut-être un peu technique, mais
ouais, c'est difficile à l'oral, ouais. En fait tu vas créer des négatifs de moules en impression 3D.
Ok, c'est les parties que tu enlèves, c'est ça que tu disais tout à l'heure.
Ouais, et ce négatif va créer le moule qui est lui-même un négatif de la pièce, en fait. Donc,
ok, d'accord.
C'est
un peu technique.
C'est tout un jeu intellectuel d'arriver à penser son modèle.
C'est un casse-tête chinois, quoi.
Ouais, tout à fait, ouais. Et je pourrais ne pas passer par l'impression 3D, mais c'est très très difficile. C'est un métier à part entière de créer des moules. Sur des formes avec autant de lignes de dépouille que ce que je peux avoir. Notamment là j'ai un moule avec il y a 4 sphères dessus. C'est un moule en 7 parties. Donc ça,
ouais.
C'est quelque chose qui,
quand même, ouais.
qui si je le faisais faire par quelqu'un, ça me coûterait plusieurs centaines d'euros.
Ouais, tu
et c'est un niveau technique de moulage extrêmement pointu, quoi. Donc l'impression 3D m'a permis d'accéder à ça de mon propre chef et
beaucoup plus simplement et de pouvoir vraiment te lancer facilement.
D'avoir voir la main sur cette partie du travail, quoi.
Et bon ben bah, on revient un peu au début, mais comment t'as eu ce déclic qui t'est dit bon, je vais faire ça?
Bah, un peu comme ça. Hein.
Okay. Et après t'as vu que ça marchait et tu t'es dit bon, je continue, quoi. Et surtout tu kiffais et que ça marchait, ou comment?
Ouais, j'étais persuadé que ça allait marcher. Hein. Les choses, quand on leur donne de l'attention et de l'intérêt, qu'on est passionné, qu'on donne de l'énergie, ça prend de l'inertie, ça prend du temps. Au début c'est un peu ingrat et puis. Et puis là j'ai eu la confirmation cet été à Noël, j'ai vendu un peu, c'est pas suffisant pour en vivre, mais j'ai déjà amorti une partie de l'investissement que j'ai fait.
Ça va, c'est cool, c'est bien.
Voilà, cette année je devrais commencer à gagner un peu pour moi, mais
j'espère pour toi, ouais.
Et voilà. c'est cool.
Ah ouais, tu m'étonnes, pouvoir vivre de ses passions, c'est quelque chose de cool, quoi. Puis tu fais quelque chose que tu kiffes la journée, t'es vraiment dans ton monde, quoi, tu vois. Enfin, moi, en tout cas, c'est l'impression que j'ai.
Ah, tout à fait, ouais. Quand je m'y mets, je décroche pas. Hein. Je suis capable de me lever à 6h du matin et de pas décrocher de ce que je suis en train de faire jusqu'à
qu'il fasse nuit, quoi.
Jusqu'à ce que je dorme, même. Des fois, je suis en train de faire des recherches sur Internet le soir.
Ah ouais, c'est un vrai passionné qu'on a.
C'est un peu excessif, des fois, mais... mais et comme ça avance.
Ah bah ouais, tu m'étonnes, c'est ça qu'il faut. De toute façon, plus tu passes de temps à faire quelque chose, plus tu deviens expert dans la chose, hein. Il y a des Je sais pas si tu connais le truc où tu fais, je crois, 8000 heures, quelque chose, tu deviens expert dans cette chose.
Ouais, je crois que c'est 10 000 même.
Ouais, 10 000, voilà, 10 000 quelque heures, chose comme ça. Ok. Et est-ce que, vu que tu as vraiment ce côté environnemental, est-ce que tu t'es impliqué dans des associations qui sont là-dedans, ou tu t'impliques avec d'autres gens pour essayer de montrer ce côté écologique à travers tes pots, machin, ou alors, un message, ou je sais pas.
Je t'avoue que je suis de tout cœur avec ces assos-là, mais j'ai absolument pas le temps en ce moment. Ouais. Donc je suis plutôt dans des assos d'artistes qui me permettent un peu de promouvoir mon travail. Là, il y a une asso d'artistes qui s'est montée sur Alette qui est très sympa. Et on va faire un petit festival d'ailleurs cet été, une petite expo, un petit festival.
Ouais, cool.
Donc c'est à suivre. Ça va certainement passer sur Radio Balade.
Ouais, on vous donnera les infos, je pense.
Passer les infos.
C'est sûr.
Et non, les assos environnementales, je t'avoue que j'ai beaucoup, beaucoup trop de choses pour m'impliquer. Ouais,
Déjà, toi, à ton échelle.
Pour l'instant, en tout cas. Voilà. Après, les OIA, c'est déjà un geste. C'est quand même un objet intéressant parce que ça fait gagner deux fois. En fait, pour, pour 10 litres d'eau, c'est comme si on mettait 20 litres d'eau en arrosage classique.
Ah
parce
ouais.
que ça supprime le phénomène d'évaporation.
Ok.
Donc ça vient vraiment arroser au cœur de la plante. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant qui vaut le coup d'être abouti dans cet aspect environnemental, quoi.
Ah ouais, c'est clair, il faut développer un peu ça, ouais. Ce serait pas mal.
Bah, c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup et qui est quand même dans l'air du temps.
Bah ouais, c'est clair.
Puis même à l'entretien du jardin, là, on arrose l'OIA, on a une dizaine de litres d'eau qui est en stockage, on est tranquille pour une semaine, quoi. En été, on connaît tous la galère d'arroser les tomates tous les deux jours, et ben là, on est tranquille pour une petite semaine et en plus, on fait des économies d'eau, quoi.
Ah bah ouais, c'est clair. C'est clair. Et. Bah du coup, est-ce que tu voudrais peut-être un jour, si ça marche vraiment, développer ton activité, former des gens qui travailleraient avec toi, ou comment est-ce que tu as une démarche dans le long terme, je parle au niveau entreprise vraiment, tu vois.
Ouais, bon, j'ai pas du tout les démarches de ça, j'ai une vision de ça. J'ai pas du tout envie de devenir une boîte qui emploie des gens et j'ai envie de continuer à faire tout mon travail moi-même, c'est mon aventure. Je suis pas du tout contre former des gens à mes techniques et tout ça, par contre il y a rien de secret dans tout ce que je fais. c'est même un grand plaisir de repartager. Moi j'ai reçu tout ce que j'ai de conseils, d'échanges sur internet, de forums, de l'open source. Je suis un enfant de l'open source. Mon travail est un enfant de l'open source. Et les choses que j'invente et que je crée, quelque part, j'ai envie qu'elles soient aussi à la disposition de quelqu'un qui voudrait se lancer et qui pourrait avoir la même démarche et que tous ensemble, on crée une grande émulsion et qu'on fasse les choses les plus incroyables possibles.
Ouais, bah ouais, c'est clair.
En faisant tout nous-mêmes, quoi. C'est le savoir, il est là. On a Internet qui est quand même formidable et c'est une diffusion des capacités, des savoirs qui est super. Donc c'est un peu comme ça que je vois le truc. Après, pourquoi pas, quand je me lasserai un peu de faire beaucoup, beaucoup de pièces, de faire des marchés, tout ça, de me recentrer un peu sur de la formation, des choses comme ça, ouais, tout à fait, ouais.
Ok. Bon, ça marche. Bon, est-ce que tu as encore des choses à nous dire, Julien, ou des petits secrets, peut-être ? Tu te l'as dit qu'il n'y en avait pas, mais on ne sait jamais.
Ah ouais, c'est compliqué à traduire comme ça, hein. J'ai des formules chimiques à balancer, mais... Non, je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont inspiré dans ma vie pour arriver jusque-là, et puis toutes celles qui vont continuer à m'inspirer, toutes les personnes qui me donnent des opportunités de rencontres, de savoir, d'échanges, et puis voilà, je vous donne rendez-vous sur les marchés très bientôt.
Bah ouais, hein.
Rendez-vous carrément. Au marché de Foix dimanche, il y a un marché aux plantes à Foix dimanche.
Carrément, vous avez entendu, hein. Il y a un peu des... Vous pouvez y aller, on a le droit de circuler maintenant.
Ouais, dimanche, c'est encore un peu limite, mais on s'est arrangé avec l'orga, on a trouvé des petits trucs.
Ah, il faut.
Voilà, et donc Foix, sûrement Mirepoix lundi aussi, le marché alimentaire de Mirepoix. Et puis après, le dimanche 23, je serai à Toulouse, sur le marché des créateurs. Donc c'est entre la gare Matabio et Centre-Ville, il y a une grande allée, c'est très peu connu d'ailleurs, s'il y a des gens qui habitent à Toulouse, qui ont des connaissances à Toulouse, faites passer le mot, il y a un super marché de créateurs magnifique.
Vous avez entendu, hein. Faites tourner.
Et puis voilà, hein, les petites news du moment.
Bah nickel. Bon merci Julien d'avoir été avec nous dans Artist Corner aujourd'hui, ça fait plaisir, ça faisait un moment, hein, il devait venir, après il m'a dit, t'es pas dispo, c'est un travailleur acharné, on l'a remarqué. Bon, mais en tout cas ça m'a fait plaisir, j'en ai appris beaucoup aujourd'hui grâce à toi, merci.
Et
peut-être à une prochaine sur les ondes du 101.8 et sur Radio Balade.
Ouais, c'est cool, merci beaucoup.
Ciao, à la prochaine.
Allez, bye.